Et nous continuons nos méditations dans l'évangile de Marc. Voilà, on a repris au chapitre 10 et on va terminer comme ça jusqu'en juillet. Et donc, on peut bénir Dieu parce que nous sommes dans un nouveau chapitre sur un sujet qu'on n'aurait certainement pas abordé comme ça. On se serait demandé, mais pourquoi il parle de ce sujet? Et donc, quand ça suit, une lecture suivie d'un évangile, c'est beaucoup plus facile de passer d'un sujet à l'autre. Et donc, nous sommes d'abord en Marc, chapitre 10, versets 1 à 12. Et ensuite, je vais le compléter avec le passage parallèle en Matthieu. Et donc, c'est sur mariage, divorce et célibat. Marc 10, 1 à 12. Jésus se mit en route pour se rendre aux confins de la Judée de l'autre côté du Jourdain. Les foules s'assemblèrent de nouveau près de lui, et selon sa coutume, une fois de plus, il les enseignait. Et les pharisiens l'abordèrent, et pour l'éprouver, pour le piéger, donc, lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, « Que vous a commandé Moïse ?» Moïse, disent-ils, a permis d'écrire un acte de divorce et de répudier sa femme. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a écrit pour vous ce commandement. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux époux, deviendront une seule chair. Alors, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, a joint. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples questionnèrent à nouveau. Quiconque répudie sa femme, dit-il, et en épouse une autre, commet un adultère envers la première. Si une femme répudie son mari et en épouse un autre, il commet un adultère. Alors c'est à peu près le même texte dans l'évangile de Matthieu, hein, vous pourrez le relire chez vous. Mais il y a d'autres questions des disciples. Donc j'ajoute Matthieu chapitre 19, 10 à 12. Ses disciples lui dirent aussi, « Si telle est la responsabilité de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. » Il leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné, car il y a des eunuques qui le sont dès le sein de leur mère, il y en a qui le sont devenus par la main des hommes, il y en a qui se sont rendus eunuques à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Nous avons soif et faim du Dieu vivant. Révèle-nous, révèle-toi, Seigneur, toi et ta volonté par ta parole. Amen. » Alors, on peut diviser ces passages en trois sections pour la clarté de l'exposé. Et donc, il y a bien sûr Jésus et le divorce, il y a le mariage, hein, et il y a le célibat. Alors, Jésus et le divorce. Donc, l'Ancien Testament n'est pas très loquace, on va dire, sur le divorce. Dieu n'est pas contre tout divorce, puisque lui-même a adressé une lettre de divorce à Israël par le passé. Nous lisons par exemple en Jérémie 3, verset 8, que Dieu avait répudié Israël à cause de tous ses adultères, lui donnant sa lettre de divorce. Jérémie 3, 8, il y a la même chose en Ésaïe. Donc la loi de Moïse permet le divorce dans certaines situations comme un moindre mal. La loi de Moïse se contente de le réglementer. Par exemple, dans ce texte de Deutéronome 24 que les pharisiens citent à Jésus. Il me semble que plutôt que d'interdire le divorce, la démarche consiste à en limiter la pratique afin d'éviter des situations trop injustes pour les premières victimes du divorce, de la répudiation, les femmes. Et donc il s'agit de protéger la femme contre les coups de tête, les lubies de son mari, du mari. Alors ce point de vue se confirmera à la lecture du Nouveau Testament, à commencer par les passages des évangiles. Et donc nous avons ce texte de Marc 10, 2 à 12, avec le parallèle en Matthieu et en Luc. Ce texte raconte le récit d'une conversation entre Jésus et les pharisiens. conversation un peu spéciale, puisqu'il s'agit d'un piège. On veut piéger Jésus. On veut piéger Jésus pour mieux l'accuser ensuite. Alors, ces pharisiens l'interpellent sur la question de la répudiation. On est donc bien dans notre sujet. Alors, on admet en général que les pharisiens demandaient à Jésus de prendre position dans un débat qui agitait le judaïsme, tout le judaïsme à cette époque. Il y avait deux écoles, s'y opposaient donc deux écoles rivales, correspondant à deux manières d'interpréter le texte de Deutéronome 24, particulièrement l'expression vague, quelque chose d'inconvenant. Deutéronome 24, 1. Alors il y avait l'école libérale, qui interprétait du rabbin Hillel, qui donnait à cette expression un sens très large. Et donc, cette école disait qu'on pouvait répudier sa femme pour un motif aussi futile qu'un plat mal cuit. Des choses vraiment très futiles. Quand les pharisiens, selon le texte de Matthieu, demandent s'il est permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif, ils font directement allusion à cette école libérale. Bien. En face, il y avait l'école du rabbin Shammai, plus rigoriste, qui pensait que l'adultère était le seul motif valable de divorce. Alors la question se pose, c'est est-ce que Jésus va prendre parti dans ce débat? Quelle est sa position à lui, le Seigneur? Alors je crois que la première chose sur laquelle le texte insiste, c'est l'idée que le mariage, d'abord, la permission de divorce ensuite. Il remet les priorités dans le bon sens. Et on remarque que Jésus ne prend pas directement position. Dans le récit de Marc, il répond par une question. Et souvent, une question va essayer d'ouvrir le débat. Que vous a commandé ? Commandé, le mot important qu'on peut souligner dans ces Bibles, c'est commandé. Que vous a commandé Moïse ? Et le verbe commander est très très fort. Formellement, Deutéronome 24 n'est pas un commandement sur le divorce. Il est donc permis de penser qu'en utilisant un verbe aussi fort, Jésus espérait conduire les pharisiens vers d'autres commandements, directement vers les ordonnances du mariage dans les récits de la création. On peut donc penser que c'est vers le mariage et tout le sérieux qu'il faut attacher aux ordonnances de Dieu dans ce domaine qu'il espérait ainsi orienter d'abord les pharisiens, selon le récit de l'évangile de Marc. En particulier. Alors, cette première réaction de Jésus est déjà pleine d'enseignements. Alors que la tendance actuelle, en cas de difficulté conjugale, même la moindre difficulté, la tendance actuelle conduit, en cas de difficulté conjugale, à penser d'abord divorce, tout de suite divorce. L'attitude de Jésus est, pour le chrétien, et a fortiori, pour l'Église du Seigneur, un rappel important en ce domaine. Il privilégie donc la démarche pastorale. Et l'attitude du Seigneur invite à penser d'abord mariage. C'est le mariage qu'il faut valoriser. C'est lui qu'il faut tenter de sauver. Et c'est en vertu de l'ordonnance donnée au départ par le Créateur. C'est ça qui prime sur la permission donnée ensuite par Moïse. Et donc ça conduit à une seconde remarque. Ce récit rappelle clairement que la loi de Moïse ne contient pas de commandement sur le divorce, mais seulement une permission. À cause de la dureté du cœur humain, dit Jésus. Une permission est moins qu'un commandement, on est d'accord. Voilà. Mais c'est plus qu'une simple tolérance. Et donc, en permettant, le Seigneur accorde, il valide la possibilité du divorce. Si la parole du Seigneur invite à tout faire pour tenter de sauver un mariage en difficulté, elle admet aussi l'existence de cas limites, de cas où le Seigneur lui-même valide la possibilité de la séparation. Une telle permission, validée par le Seigneur, doit être prise comme une porte ouverte. Une vraie possibilité offerte pour se reconstruire en dehors du cadre destructeur d'un mariage devenu toxique. Donc, si on voulait dire encore les choses autrement, on pourrait dire que Jésus ne cède pas à la banalisation du divorce, mais il garde une porte ouverte cependant. Et donc Jésus ne banalise pas le divorce, on le voit bien dans le texte, hein, comme le faisait Hillel. Hein, il critique fondamentalement l'état d'esprit qui ne cherche que son propre intérêt. Hein, et le divorce, dans ce cas, hein, s'écarte du plan de Dieu. Mais l'enseignement de Jésus tient aussi compte des réalités humaines. Il explique hein, que les dispositions de la loi de Moïse sont là à cause de la dureté du cœur humain, on l'a dit. Quand les choses vont de travers, il faut limiter les dégâts. Et si Marc ne retient que la leçon principale, pas de divorce, dans Matthieu, hein, il est rapporté un cas de figure où le divorce n'est pas synonyme d'adultère quand l'alliance entre un homme et une femme est brisée par l'immoralité. Donc, obliger l'un des époux, souvent la femme, à subir éternellement les frasques de l'autre, c'est encore plus en contradiction avec le plan de Dieu que le divorce. La dignité humaine est plus importante que l'institution. Voilà un grand principe que l'on trouve dans toute la Bible. Donc Jésus laisse la porte ouverte, et à cet égard, le fait de ne pas énoncer avec précision les motifs permettant le divorce est significatif. Pour Jésus, il ne s'agissait pas, comme le faisait le rabbin Shammai, de définir de façon précise les conditions de possibilité d'un divorce. Jésus n'a pas une approche légaliste, on va dire, du sujet. Hein, et il ouvre une autre démarche. Il ne précise pas trop le sens du mot « porneia », un contrat du par adultère. Afin de maintenir une porte ouverte lorsque le mariage est trop profondément atteint et qu'il affecte alors gravement et blesse irrémédiablement l'un ou moins des conjoints. Donc on peut se demander, si, bien sûr, s'il n'y a pas d'autres situations analogues. Il y en a d'autres, quand l'un des époux est plongé dans l'alcoolisme, quand la violence règne dans l'union conjugale, la violence conjugale. Là aussi, condamné sans comprendre, serait usé de moins de miséricorde que Dieu lui-même à cet égard. Alors, pour résumer, on pourrait dire ce premier point, garder une porte ouverte sans toutefois céder à la banalisation. Voilà l'équilibre de Jésus. Telle est la ligne de crête, une ligne de crête étroite. Quand on marche en montagne sur une ligne de crête, on est tenté de glisser d'un côté ou de glisser de l'autre. Ce n'est pas si facile que ça. Eh bien, la ligne de crête est étroite, mais elle est nécessaire pour refuser à la fois tout laxisme, mais aussi pour maintenir la possibilité d'un nouveau départ en cas d'échec avéré du mariage. Et donc, l'approche de Jésus n'est ni légaliste, je le répète, ni libéral. C'est une approche pastorale qui privilégie la compassion sans tomber dans le laxisme. Alors, après ce premier point, on va dire, allons vers le positif, le mariage. Jésus cite deux textes de la Genèse qui mettent en valeur positivement le mariage. D'abord, Genèse 1, 27. Dieu, je vais le citer dans son entier, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc Dieu a fait l'homme et la femme à son image de façon parfaitement égale. Dès le début, les deux sont placés au sommet de la création. Aucun des deux sexes n'est présenté comme supérieur à l'autre. La relation sexuelle provient de Dieu et elle est parfaitement honorable et normale, aussi longtemps qu'elle respecte les lois établies par Dieu, dans le cadre donc des lois établies par Dieu. La relation sexuelle n'existe pas seulement en vue d'avoir des enfants, elle est aussi et surtout un élément important dans la création et le maintien d'un lien fort dans le couple. Et il y a de merveilleux passages dans ce sens dans la Bible. Par exemple, ces versets de Proverbes 5, 18-19. Fais ta joie de la femme que tu as aimée dans ta jeunesse. Biche charmante, gracieuse gazelle, que ses charmes t'enivrent toujours et que tu sois sans cesse épris de son amour. Et puis, il n'y a qu'à relire de temps en temps les beautés du Cantique des Cantiques. Et puis, Jésus cite un second texte. Après Genèse 1, il cite Genèse 2. Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront plus qu'une seule chair. Donc le mariage est le cadeau de Dieu à Adam et Ève, qui ont été parfaitement créés l'un pour l'autre. Le mariage n'est pas institué par simple commodité, il n'est pas non plus inventé par une société particulière, il est institué par Dieu lui-même sur trois bases. Premièrement, l'homme quitte ses parents, s'engage publiquement envers sa femme. Ensuite, l'homme et la femme sont unis par leur responsabilité de rechercher le bien de l'autre, de l'aimer, d'aimer l'autre exclusivement. Et enfin, les deux ne font plus qu'un dans l'intimité de l'union sexuelle réservée à ce niveau d'engagement. Donc le mariage comporte donc ces trois aspects. Et j'aimerais insister maintenant sur un des aspects particuliers, la fidélité exclusive. En citant la Genèse, Jésus pose l'exigence d'une fidélité exclusive, voulue par Dieu. Et donc la fidélité est la colonne vertébrale, on peut dire, de l'amour. Jésus dit, l'homme s'attachera à sa femme. Alors tout nous pousse aujourd'hui à se détacher. Tout nous pousse aujourd'hui à l'infidélité. Ce qui importe aujourd'hui, nous vivons dans un climat d'égoïsme généralisé, d'abord. Ce qui importe aujourd'hui, c'est moi, mon moi, moi, mon épanouissement personnel. Nous vivons aussi dans un climat d'hédonisme, de recherche du plaisir, avant tout. Ce qui importe, c'est ma satisfaction personnelle, mon assouvissement, épanouissement et assouvissement. Voilà les deux mots. Alors, les tentations ont toujours existé, parce que le cœur humain n'a pas changé depuis que l'homme s'est séparé de Dieu. Mais ce qui pousse aujourd'hui à l'infidélité semble relever de la culture ambiante. Dans la culture, il y avait des choses qui réfrénaient un peu cet état de pensée. Ce n'est plus le cas. Apparemment, aujourd'hui, tout va plus vite. Nous vivons dans l'instant présent. Notre culture n'est pas une culture du lien, mais une culture de la satisfaction du court terme, du très court terme. Mais les besoins profonds de la personne restent les mêmes. Ses aspirations fondamentales également. Les grands rythmes de la vie ne changent pas et ils sont longs. Il faut toujours 9 mois pour donner naissance à un enfant. Il faut toujours, alors je ne vais pas donner le nombre d'années, allez, 20 ans, 30 ans pour l'éduquer. Il faut une vie entière pour apprendre à s'aimer. Qui peut dire qu'il a appris à aimer son épouse ou son époux en 5 ans, en 10 ans ou en 20 ans. La principale raison de résister est le refus de faire de l'autre un instrument. Car dans l'infidélité, l'autre est un instrument que j'utilise. Dès qu'il ne m'apporte plus les satisfactions désirées, ou même simplement si je trouve mieux ailleurs, ou je crois mieux trouver ailleurs, eh bien je l'abandonne comme une chaussette trouée. Or, si l'amour est volonté que l'autre vive, l'abandonner, c'est le livrer à la mort. La fidélité, la colonne vertébrale de l'amour, elle est la vérification de sa vérité, qui ne se déploie qu'à travers le temps. Si on se limite à l'instant, au jour présent, quelle différence y a-t-il entre aimer véritablement et avoir l'illusion d'aimer ? C'est l'avenir qui le dira. C'est le temps, c'est la durée. L'amour est un travail, moins un travail que l'on fait, qu'un travail qui se réalise en nous, petit à petit. Et pour que cela ait vraiment lieu, il faut du temps, il faut la dimension temps. Le sens premier de fidélité est loyauté. c'est-à-dire la capacité de tenir parole. La fidélité à la parole donnée est une des toutes premières qualités d'une personne, la fidélité à la parole donnée. Il y a des versets du livre des Proverbes. Hein. Ce qui fait la beauté d'un homme, c'est sa fidélité. Hein. En ce jour de fête des pères, on peut s'en souvenir. Hein. Être fiable, mais c'est vrai pour tous. Hein. Être fiable, c'est digne de foi, digne de confiance. Fidélité et confiance vont de pair aussi. Et à partir du mot de là, le mot fidélité peut s'entendre dans deux sens qui ne sont pas séparables. La fidélité exclusivité, tout d'abord. C'est-à-dire ne pas avoir de liaison parallèle, ne pas trahir la confiance en se donnant à un autre ou à une autre de la même manière que l'on se donne à l'être élu. Et puis la fidélité durée, qui consiste à traverser le temps, à ne pas rompre à la première difficulté. Ces deux formes de fidélité se recoupent. Il s'agit de tenir parole en considérant l'autre comme irremplaçable. Je t'aime signifie concrètement, tu es pour moi l'unique, unique. Alors, est-ce que la foi aide à être fidèle ? Ben oui, la foi aide à être fidèle parce que la foi est ouverture à une source du lien et de l'amour, une source invisible et permanente qui est constante, une source non soumise aux aléas de mes sentiments, non soumise aux hauts et aux bas du désir immédiat. Hein. L'accueil de la grâce renouvelée, l'accueil de l'amour agapé, l'amour biblique, l'amour qui vient de Dieu, hein, qui est décentré de nous-mêmes, et bien qui est don de soi, l'accueil de la grâce et de l'amour est la base continue de la durée du couple. Heureux le couple, hein, qui a invité Dieu et qui invite sans cesse Dieu, hein, à être au centre de leur union. Alors, je termine avec le troisième point, le célibat. Que ce soit Jésus en Matthieu, que ce soit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens chapitre 7, on passe du divorce au mariage, du mariage au célibat. Donc, c'est là quelque chose d'important de relier les trois. Donc, on a déjà rappelé le projet de Dieu. Un homme, une femme pour la vie. Avec quelques exceptions à la règle, à cause de la dureté du cœur humain. Il est temps de valoriser devant nous, ce matin, le célibat. Alors, pour deux raisons. Quand la Bible valorise le célibat, que ce soit en Matthieu, que ce soit en 1 Corinthiens 7, il y a deux raisons. La première, c'est que les personnes mariées sont plus vulnérables en temps de persécution. Hein, c'est surtout Paul qui le dit en 1 Corinthiens 7. Hein. Marié signifie vulnérable. On le sait dans tous les moments de persécution dans l'histoire du monde, être marié, c'est être vulnérable. Lors de la révocation de l'édit de Nantes, au XVIIe siècle, hein, les pasteurs pouvaient quitter la France, librement, sans aller en prison, mais devaient laisser leurs femmes et leurs enfants, qui étaient enfermés dans des couvents jusqu'à la conversion forcée. Hein. Et beaucoup d'autres exemples. Hein. Marié, surtout en temps de persécution, c'est être vulnérable. La deuxième raison, c'est la plus grande disponibilité des célibataires pour la cause de l'Évangile. On a connu des pasteurs qui vivaient comme des célibataires, hein, qui étaient partis tous les soirs de la semaine et tous les dimanches après-midi, hein, et qui consacraient très peu de temps à leur famille. Hein. Alors, donc, la plus grande disponibilité des célibataires pour la cause de l'Évangile, c'est vrai. Hein. C'est une question d'emploi du temps, de priorité partagée. Nous touchons ici à la question donc, du célibat choisi. On peut choisir son célibat à cause de ces deux raisons. Mais il y a aussi un célibat subi, il faut bien le dire. Subi pour différentes raisons. Subi d'ailleurs, d'abord parce qu'on n'a pas rencontré la bonne personne. Bien. Subi parce qu'on a rencontré la bonne personne, mais on n'était pas prêt et que le moment est passé. Ça arrive aussi. Et puis, subi parce que le conjoint vous a lâché. Et subi parce que la mort l'a enlevé. Et on pourrait citer d'autres cas de figure. Jésus et Paul valorisent le célibat librement choisi. On le voit aussi donc dans ce texte de Matthieu 19, 12. Alors j'en connais qui sont heureux dans ce choix. C'est un célibat choisi qu'ils vivent. C'est un don de la grâce, dit l'apôtre Paul à Corinthiens 7. Un charisme, un don de Dieu, qui nous appartient de mettre en œuvre. Mais c'est un don de Dieu, tout comme le mariage est un don de Dieu. Mais que dire du célibat subi? Alors, en 30 secondes, on peut dire qu'on peut en sortir, comme certains l'ont fait, à l'aide d'un site de rencontre évangélique, sérieux. Ce n'est pas tout sérieux, bien sûr. Mais il faut surtout, me semble-t-il, cultiver un réseau de relations qui puisse combler la solitude qui nous envahit, qui vous envahit parfois. Alors, non pas des relations où vous mendiez l'affection, mais des relations où vous vous donnez pour les autres. Dans l'église, dans une association, dans la famille. En fait, dans le mariage, ou en dehors du mariage, aimer, se donner pour les autres, c'est la clé de tout. Et c'est ainsi qu'on peut conclure déjà. La clé de tout, que l'on soit marié, célibataire, ou en dehors du mariage, aimer, se donner pour les autres, c'est la clé de tout. Et j'ai deux conclusions. La première, c'est un texte que j'ai lu cette semaine en Romains 14, 7 à 8. Aucun de nous ne vit pour lui-même, dit l'apôtre Paul. Ah, ça, c'est ça l'optique de l'évangile, ne pas vivre pour soi-même. Aucun de nous ne vit pour lui-même, aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Voilà ce qui doit nous guider en toutes choses. Et puis, deuxième conclusion, eh bien, c'est que ce n'est peut-être pas par hasard si notre texte, en Marc et en Matthieu, est suivi de quelques versets qui parlent des enfants. On va les commenter la semaine prochaine. Jésus dit, laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas. Et il les embrasse et il les bénit. C'était la demande des mères de famille. Bénir, c'est dire du bien. Dans la Bible, c'est aussi confesser que ce que nous bénissons vient de Dieu, est un don de Dieu. En bénissant les enfants, Jésus reconnaît qu'ils sont des grâces, de pure grâce confiée aux parents, à l'homme et à la femme. Et donc, il est heureux de constater que ce passage de l'Évangile, dans lequel Jésus recadre les relations conjugales, s'achève dans la grâce. Que la grâce soit avec nous tous. Amen.